VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour. Au Burundi, les autorités qui veulent stopper les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont coupé aujourd'hui l'accès aux réseaux sociaux via les téléphones portables dans la capitale Bujumbura. Twitter, Facebook et WhatsApp sont désormais inaccessibles via les réseaux de téléphonie mobile, mais ils restent disponibles sur Internet fixe selon l'AFP. Pour sa part, Pierre Claver Mbonimpa, figure proue de la société civile, a souligné que la seule façon de faire cesser les manifestations est un renoncement de M. Nkurunziza à briguer la magistrature suprême. Entre-temps, le département d'État américain a dépêché un émissaire au Burundi. Il s'agit de Tom Malinowski, secrétaire d'État adjoint chargé de la démocratie, des droits humains et du travail. Crise en Centrafrique, la force onusienne en République centrafricaine devrait recevoir rapidement des drones ainsi que des hélicoptères. C'est ce qu'a annoncé mardi Hervé Latsou, chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU, au terme d'une visite de 4 jours dans le pays. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Les casques bleus seront dotés de drones pour la surveillance, a déclaré Hervé Latsou lors d'une cérémonie à Bangui. La MINUSCA compte actuellement 8500 soldats et 1484 policiers. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'une année le mandat de la MINUSCA et porté le nombre de casques bleus à 10750 soldats et 2080 policiers d'ici le mois d'août. La présence de 3 forces internationales, françaises, européennes et onusiennes, a permis de stabiliser la situation sans réussir à pacifier l'ensemble du territoire. Le Forum national de réconciliation doit se réunir à Bangui à partir de lundi. Il doit rassembler plus de 600 représentants de tout le pays pour trouver des solutions durables à la crise.
Au Gabon, les hommages en l'honneur du défunt dirigeant d'opposition André Mbaobame continuent aujourd'hui. Des dizaines de milliers de partisans du disparu ont accueilli hier à Libreville son cercueil en provenance du Cameroun, où il est décédé le 12 avril. 2 soldats maliens et 1 civil ont été tués mercredi dans l'attaque de Goundam, un village du nord du Mali. La localité a été le théâtre de 2 jours d'affrontements entre milices pro et anti-gouvernementales. Des précisions avec Alassane Cissé, directeur de la radio Kumba Jodé à Goundam.
Vers 5h30, à la sortie de la mosquée, on entendait des coups de feu. Immédiatement, les gens se sont tarés dans leur maison. Ça a duré 30 minutes. À 6h, les coups de feu ont cessé et la jeunesse en était sortie pour se rendre vers le camp de garde. Arrivé sur les lieux, on a trouvé que le chef de peloton lui était déjà criblé de balles, ainsi que son adjoint et un de ses neveux, qui est arrivé hier soir seulement dans l'après-midi chez lui. Et les assaillants, ils sont repartis dans 2 criseurs. Dans une criseur, il y avait 2 personnes, dans l'autre, il y avait 3. Les gens ont se dit partout dans la ville, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Les gens sont venus le chercher directement chez lui. C'était des surnourris, mais on ne sait pas au juste de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que dès que le forfait est commis, les gens sont retournés sur la route de Tombouctou. L'armée était venue, la gendarmerie, je ne sais pas, ils sont partis à leur trousse ou quoi. C'était dur quand même. 3 personnes. On les a même enterrés vers 11h30. Toute la population était là. Il y avait même le chef de peloton de Diré qui était là à l'enterrement.
Alassane Cissé, directeur de la radio Kumba Jodé à Goundam. Au Nigeria, l'armée affirme avoir sauvé près de 300 femmes des mains de la milice islamiste Boko Haram. L'opération de sauvetage s'est déroulée mardi dans la forêt de Sambisa, un des derniers bastions du groupe islamiste dans l'état de Borno, au nord-est du pays. D'autres précisions avec Jean-Roger Bion.
Cette forêt était considérée comme le lieu où les islamistes cachaient plus de 200 collégiennes enlevées à Chibok il y a 1 an par les extrémistes. Mais un porte-parole de l'armée nigériane a fait savoir que les filles de Chibok ne figurent pas parmi les personnes secourues. Les otages étaient répartis dans 3 camps au cœur de la forêt qui ont tous été détruits, selon le ministère nigérian de la Défense. La secte Boko Haram avait un moment pris le contrôle d'une partie des états de Yobe, Borno et de l'Adamawa, mais a aujourd'hui perdu la quasi-totalité de ses territoires à la suite de l'offensive multiple multinationale. Le gouvernement du Niger a annoncé de son côté que 46 soldats et 28 civils ont été tués au cours de combats contre les militants de Boko Haram pour le contrôle de Karamga, une île sur le lac Tchad. 156 islamistes ont également été tués dans ces affrontements. Selon la même source, l'armée nigérienne affirme avoir repris le contrôle de l'île. Le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria ont récemment lancé une offensive pour mettre fin à l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts et déplacé plus d'un million de personnes dans le nord du Nigeria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, victoire du président sortant Faure Gnassingbé au présidentiel de la semaine dernière. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé hier soir que le chef de l'État avait obtenu près de 59% des suffrages exprimés contre environ 35% à son plus proche rival, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Au Niger, deuil national de 3 jours suite à l'attaque des islamistes nigérians le 25 avril contre un détachement des forces de défense nigériennes sur l'île de Karamga, dans le lac Tchad. Les forces de défense nigériennes procèdent à des opérations de ratissage pour retrouver les disparus et neutraliser les éléments de Boko Haram. Au Népal, les autorités ont reconnu avoir commis des erreurs dans leur réponse initiale au violent séisme de samedi dernier qui a fait plus de 5000 morts. Entre-temps, les rescapés dans les localités isolées du pays attendaient toujours mercredi de l'aide et des secours. Les agences onusiennes ont commencé à distribuer des vivres, des médicaments, des tentes. Alors que le bilan dépasse donc plus de 5000 morts, les secouristes continuent de dégager des victimes des décombres. Le premier ministre Suhail Koirala a dit à l'agence Reuters mardi que le bilan définitif pourrait atteindre 10 000 morts. Ici aux États-Unis, situation stable à Baltimore, dans l'État du Maryland, 2 jours après les violences et les pillages de lundi, suite aux obsèques d'un jeune noir mort après avoir été arrêté et embarqué dans un fourgon par la police. Le président Barack Obama a dit mardi qu'il n'y avait aucune excuse pour ces violences, mais il a reconnu que les États-Unis sont confrontés à une crise latente avec la police, notamment dans ses relations avec les Noirs. Jean-Roger Bion.
Nous avons vu trop d'exemples d'interactions entre la police et des gens, surtout des Afro-Américains, souvent pauvres, qui soulèvent des questions troublantes, a déclaré hier le président Obama dans une conférence de presse à la Maison-Blanche. La toute nouvelle ministre de la Justice, Loretta Lynch, qui a prêté serment lundi, a condamné ce qu'elle a qualifié de violence insensée. Larry Hogan, gouverneur du Maryland, a décrété l'état d'urgence et Stephanie Rowling Blake, maire de Baltimore, a annoncé un couvre-feu nocturne d'une semaine. Lundi, de nombreux jeunes, dont des lycéens, s'en sont pris aux forces de police, lançant des briques, cailloux ou encore des bouteilles. Ils ont pillé des commerces et incendié des voitures. C'était peu après l'inhumation de Freddie Gray. Ce jeune noir de 25 ans est mort après avoir été arrêté et embarqué dans un fourgon de police. Une enquête a été ouverte et la police promet plus d'informations pour le vendredi 1er mai sur la mort de Freddie Gray.
La tragédie des migrants en Méditerranée, de nombreux Maliens et Sénégalais ont péri dans les récents naufrages au large des côtes libyennes, notamment celui d'un chalutier surchargé le 19 avril qui a fait plus de 700 morts. Claire Morin-Chibourg.
Selon le communiqué du ministère des Maliens de l'Extérieur, 156 Maliens ont été identifiés parmi les migrants noyés dans la Méditerranée. La plupart des victimes sont originaires de la région de Kaye, frontalière avec le Sénégal. Bamako a mis en place une cellule de crise en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Office des migrations internationales. 9 jours après cette tragédie, dans laquelle ont également péri des dizaines de Sénégalais, le gouvernement du Sénégal a mis en place une cellule de crise dotée d'un numéro vert pour informer les proches des disparus. Profitant du chaos en Libye, des migrants cherchent à rejoindre clandestinement l'Europe, en particulier l'Italie.
Voilà, et ici aux États-Unis, la Cour suprême examine aujourd'hui l'injection létale comme méthode d'exécution dans un débat déterminant sur la peine de mort pour le seul pays occidental qui l'utilise encore. En avril 2008, dans sa décision Bays versus Reese, la plus haute juridiction du pays avait jugé l'injection mortelle conforme au 8e amendement de la Constitution.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.